France Inter.
Mais bienvenue dans l'humour d'Inter l'hebdo. Comme chaque samedi, je vous prépare une sélection des chroniques humour de la semaine. Et dans cette émission, vous allez entendre Harold Barbet dans une épopée administrative.
Ça s'appelle Mad Harold et la carte d'identité perdue.
Julie Conti, elle fêtera dignement la journée de la nature.
SOS Biodiversité, j'écoute. Ah, vous êtes une baleine menacée par la surpêche. Bon allez, courage, hein. On vous envoie un pin's Renaissance et un thermos des JO de Paris.
Tom Baldetti, lui, va être très mignon et il va parler de son papounet. Voilà, c'est son soutien numéro un.
Quand il parlait de moi, il disait « Mon fils, on l'appelle le Mbappé du stand-up ». Absolument personne ne m'a appelé comme ça.
Et puis, nous ferons un petit détour par 1966 pour écouter un extrait d'une leçon de contre-espionnage façon Pierre Dac dans « Bon baiser de partout ».
Si l'on est agent double, ne jamais se donner rendez-vous au même endroit de crainte de se retrouver tout seul ensemble.
Et puis, nous ferons plus ample connaissance avec deux chroniqueur régulier de la chaîne. Il y a d'abord Sandra Colombo qui distille ses humeurs dans Grand Bien Vous Fasse, l'émission de notre maître à tous hein, et toutes, évidemment, Ali Rebéi. Comédienne, autrice et à l'affiche bientôt de Dossier 137, le nouveau film de Dominique Moll. Sandra Colombo, c'est la générosité dans le rire, la petite acidité qu'on adore dans le smoothie et surtout, c'est une cuisinière hors pair. Surtout, elle fait des petits gâteaux quand vient Noël, ça c'est vraiment très agréable. Merci d'être là, Sandra, ça va?
Mais oui,
est-ce que tu m'as apporté des petites choses à manger?
Non, c'est pas Noël.
C'est toujours un peu Noël quand je te vois. Et puis aujourd'hui, tu es accompagné de Guigui, le plus grand des Guigui, le plus beau des Bibi. Quand je dis Guigui, vous dites Guy, Guy.
Oui, Guy.
Guigui, oui, c'est Guigui Pop, régulier de Zoom Zoom Zen, ancien batteur, caméraman, nouvel auteur, nouveau papa, star d'Internet et des podcasts, et depuis peu, icône de l'humour sur France Inter. Ça va, Guigui Pop?
Ouais, ça va, c'est Noël du coup.
Bah, c'est complètement Noël, on aurait dû avoir des gâteaux, j'ai envie de te dire, je suis extrêmement déçue. Vous avez passé une bonne semaine?
Oui.
Ah oui, très bien, et toi?
Ah bah moi, quand je vous vois, je sais que la semaine est bonne, forcément.
Oh, merci.
Oh là là, vous êtes sur France Inter, vous écoutez l'humour d'Inter l'hebdo. Bah, bienvenue chez vous.
L'humour d'Inter l'hebdo.
Ceci est une émission de radio.
Et on va commencer par les adieux d'un chroniqueur. Voilà, il a fait partie de la toute première saison de Zoom Zoom Zen, et après 3 années, il tire sa révérence de manière un peu sanglante, on va pas se mentir. On écoute la dernière chronique de Benjamin Tranier.
Nous sommes le 20 mai 2025, journée mondiale contre le braconnage. Tiens, tiens, une des dernières condamnations que Stéphane Plaza n'a pas encore dans sa collecte. Nous sommes donc le 20 mai 2025, CNews, BFM TV, L'Afterfoot et Chicandier sont en deuil. L'éditorialiste populiste et d'extrême droite Apollin de Malbeu est retrouvé mort. Alors qu'il avait été déclaré disparu depuis 24 heures, le corps d'Apollin est retrouvé dans le 77, écrasé sous un quad. Il tenait contre lui une photo de Louis Sarkozy, qui a comme point commun avec Achraf Hakimi d'être le meilleur piston à droite de France. Qui pouvait bien en vouloir à Apollin? Tout le monde. Mais c'est pas du tout la question à se poser, disent les enquêteurs. Mais ce quad en question, à qui peut-il bien appartenir? Le corps a été retrouvé sur la D934 entre Mourou et Coulommiers. Et il n'y a qu'un seul propriétaire de quad avec un pot Akrapovitch dans les parages. Le maire de Mourou, Romain de Bontaga. Ni une ni deux, la police file à la mairie de Mourou où, stupéfaction, Romain de Bontaga est retrouvé mort, pendu. La corde est fine mais extrêmement solide. Tiens, tiens, il a été pendu par un string pour homme en surpoids de la marque Merwan Ben Slibar. Commercialisé uniquement sur le site deslipetdesobes.com de Claude Bourbier. Le modèle n'est disponible qu'en pré-vente. Claude Bourbier devient donc le suspect numéro 1. Les enquêteurs mettent très peu de temps à retrouver la trace de Claude, car justement, une longue trace de poudre allait de la mairie jusqu'au bowling de Coulommiers. Lieu où Claude donnait tous ses rendez-vous pro. Le lieu est vide et au milieu de la piste VIP, le corps de Claude est retrouvé sans vie. Connaissant Claudius, il pourrait avoir trouvé la mort suite à un jeu sexuel. Son corps, sauf ses parties intimes, ont été ficelés de bandes VHS pour envoyer tout son sang dans sa peau de saucisson. Sur la piste numéro 9, on a l'impression de voir un énorme gigot avec un kiki dur comme un bouchon de pomme-pote. La jaquette La jaquette n'est pas loin, étrange. Il s'agit d'une cassette VHS de Piège à Hong Kong avec Van Damme. Un film légendaire, si vous voulez mon avis, alors qu'on n'y voit même pas le fluffy pancake à Jean-Claude. Mais attendez, la semaine dernière, un habitant de la ville s'était battu avec un brocanteur, car il lui avait vendu un lot de 8 VHS de Jean-Claude Van Damme pour 2 euros. L'assaillant avait trouvé le prix insultant pour une star légendaire comme Van Damme. Le brocanteur se souvient. Il m'a dit que je ne respectais pas le cinéma et il est revenu une heure après en slip avec une chaise de jardin et il me l'a balancé à la gueule avant d'être transporté aux urgences parce que pour m'impressionner, il avait essayé de faire le grand écart. Mais je m'égare. La police file au domicile de celui-ci que tout le monde désigne comme le coupable. Un marginal avec une nuque longue, une casquette, des Santiago, mais surtout des tchouches à la place du bouton de la sonnette de sa porte. La plupart du temps, il est dans son garage à retaper sa multipla sur laquelle il a fait mettre un moulage de la baguette tradition de Manu Ferrara à la place du frein à main. Arrivé sur place, les enquêteurs sont dépités. Le beauf est retrouvé mort, lui aussi. Étouffé, la tête dans une poche à chouquette. Aucun indice, aucune trace. Romain de Bonctaga, Apollin de Malbeu, Claude Bourbier, Le Beauf, ces personnes n'ont rien au commun, si ce n'est une personne, Benjamin Tranier. Le comédien a une chronique sur France Inter. La police y fonce et arrête le comédien avant qu'il ne passe à l'antenne. Il est torse nu avec une clope dans le nombril. C'est son nouveau personnage, Fabien Olricard. Un mentaliste alcoolique qui colle au thème du jour, hydrocommunication. Pas évident d'être drôle dans cette émission. Moi, perso, mon personnage préféré de Tranier, c'est Docteur Douakissan, un proctologue dont le seul ressort comique consistait à se renifler les doigts. Quelle escroquerie. Ça me saccage le cif de rire. Bref, son physique, petit et gros, laisse penser aux agents qu'il ne tiendra pas la pression sous la menace. Bingo, Benjamin Tranier craque. Et avoue tout. Je les ai tous fumés, sauf Jib. Il a fait un arrêt cardiaque quand il a su que c'était un homme, le patron de Cuisinella. Ne sachant pas comment faire dire au revoir à ses personnages, il préféra les tuer. Comment ça ? Au revoir, dit le policier en jouant très mal la surprise, comme s'il était comédien qui incarne Panda dans TF1. Oui, déclara Benjamin, les chroniques à la radio, c'est fini pour moi. Après 122 chroniques sur France Inter et une centaine sur Radio Nova, peut-être est-il temps pour moi de passer à autre chose. Finissant d'essuyer sa longue mort vert flubber avec son t-shirt, Benjamin Tranier remercia le public d'avoir ri à ses bêtises à la radio durant 6 années. Merci France Inter, longue vie à Zoom Zoom Zen. Au revoir, dit-il ému, la honte.
Bah moi aussi, ça m'a ému parce qu'on l'aime bien, Benjamin Tranier. Il y a Lucie, ma réalisatrice, qui est en train de chialer en coulisses tellement elle adore Benjamin Tranier. Bon, bah
oui,
quand
on
même.
On adore Benjamin
Tranier. Bah oui, on l'adore. Mais oui. En tout cas, toutes ses chroniques sont à retrouver sur l'application, évidemment, Radio France. Moi, je suis toujours avec Sandra Colombo et Guigui Pop. Sandra, tu viens de monter les marches à Cannes parce que tu fais partie de la distribution du nouveau film de Dominique Moll. Comment c'était ?
Ah, c'est incroyable. On a du mal à m'arrêter de parler, mais là vraiment je suis un peu comme qui dirait en américain speechless. Vraiment c'est incroyable, c'est un moment fou en fait, tout est fou quoi. Puis alors rentrer dans cette immense salle de cinéma qui fait 2309 places et que tout le monde t'applaudit et après le film on a 8 minutes d'applause ininterrompue. Alors autant j'ai l'habitude d'avoir des
standing ovations
sur mon spectacle, mais autant 2300 personnes qui applaudissent sans discontinuer pendant 8 minutes, c'est un truc de ma boule.
Qu'est-ce qui serait pour toi, Guigui, le paquet de chips ultime ? C'est quoi la consécration ? Le truc que tu rêverais de vivre dans ta carrière ? Déjà là, t'as fait le Jamel Comedy Club. Est-ce que
ça... J'ai fait l'émission du Jamel Comedy Club, ça je suis content. Mais moi, c'est ce que je disais aux autres, j'ai vraiment ce truc, comme je suis un peu au début, quoi. Déjà, même à chaque fois que je me pointe devant Radio France, je me dis, ouais, c'est un truc de ouf en fait. Tu vois, franchement, moi je suis trop content de tout, quoi. Je suis encore dans la phase où je me dis, attends, il y a des gens qui ont payé pour venir me voir là, mais c'est un truc de ouf en fait.
Et bien, il y en a un, je sais pas s'il a monté les marches, mais je peux vous dire que les récompenses pleuvent. Il revient avec un nouveau titre dans lequel il parle de sa relation aux psychotropes. On écoute Yamé avec Shoot sur France Inter. Shoot, shoot.
Ne prends pas la tête. Je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans l'arène.
entre le love et la haine. Et comme toi, j'en fume ma paire de vue. Mais est-ce que je finirai pas en perdre la vue? Oui, je me dis que c'est pour l'inspire. Et comme elle est hyperactif, j'allume mes cordes le chromique. Mais je voudrais chanter toute ma vie.
Toujours l'humour d'Inter l'Hebdo. Là, c'était Yamé, shoot sur France Inter.
Marine Baousson, l'humour d'Inter l'Hebdo.
Ouais, c'est moi. C'est l'émission dans laquelle on réécoute le meilleur des chroniques de la semaine. Je suis toujours avec Sandra Colombo et Guigui Pop. Et dans l'actu de la semaine, eh ben, y a l'aide à mourir. Et contre toute attente, ça a inspiré une chanson à Daniel Morin. C'était jeudi dans le 5-7.
En ce moment, grosse rigolade à l'Assemblée nationale, les députés travaillent sur le projet de loi euthanasie, fin de vie, aide à mourir, bye bye baby, adios mi amor. Il doit y avoir une ambiance, manque plus qu'une projection d'un film des Dardennes et l'écoute d'un album de Barbara, et t'attends pas que le texte soit voté. Tu demandes la fin de vie tout de suite, illico. Et c'est vrai que c'est compliqué ce genre de dossier. Ça fout les chocottes d'évoquer la mort. T'es là, tu te projettes. Bonne idée, pas bonne idée. Est-ce qu'il y aura des garanties? Est-ce que ton entourage va pas essayer de te la faire à l'envers? Non, mais... Moi, ça fait 3 jours, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je fais régulièrement des cauchemars. Les cauchemars en musique, c'est très étrange. Alors, je fais des cauchemars où des gens profitent de mon sommeil pour m'euthanasier. Des fois, dans mes rêves, c'est ma famille. C'est même ma famille à moi qui me veut du mal. Je suis dans le canapé, j'ai fait un roupillon. Il y a ma femme qui débarque et me pique dans le croupion. C'est l'aide à mourir. Ah, vache, je me réveille en sueur, j'en peux plus. Ah, mais il y a encore plus chelou. C'est quand le rêve se déroule au boulot.
Non.
Je suis dans le studio, légèrement assoupi. Il y a Mathilde qui arrive, doucement sans faire de bruit. C'est l'aide à mourir. Ah! Ah, vache! Ah, trahison ultime!
Mais non, non
pas toi, Mathilde! Oui, oui, mais bon, je t'ai vu dans mon rêve. Parfois, c'est méga horrible dans mon rêve. Il y a des gens qui me détestent et qui essaient de me piquer, alors que je ne dors même pas. Assis sur une chaise, je lasse mes chaussures. Y'a Nico qui débarque en tenant une piqûre. C'est l'aide à mourir. Oh, j'en suis fuck. Mais ça a l'air tellement vrai, tellement vrai. Oh la vache, rien que d'en parler, je tremble. Bon allez, parlons un peu boulot à présent. Alors ici dans le Carrefour, tout le monde fait bon, plutôt bien son travail, hein, à part quelques exceptions. Bon, presque tout le monde, oui, bah, désolé, bah, ce soir il y a mille fois mieux que casting à regarder.
Bah, ouais.
Il y a Tattoo Cover à 21h10 sur TFX, programme bah, légendaire. Hein. Des gens qui se font tatouer un truc, ils regrettent et ils demandent à des tatoueurs de corriger l'erreur. Mais faut voir ce que les gens se font tatouer par le passé. Tu te demandes si certains sont des cons absolus ou alors des génies. Je me souviens d'un type qui monte son tatouage. Tout le monde regarde, personne n'arrive à dire ce que c'est. Un truc difforme qui ressemble à rien et le gars finit par dire « C'est un kebab ». Un kebab ? Un kebab ? Mais il vient de quel pays ton kebab ? Ce programme télé, c'est de l'or en 16/9, je vous garantis.
Oh, je vais aimer.
Sinon, casting, c'est très bien. Oh la vache, le regard d'Eva, je vais me prendre un taquet entre les deux yeux, moi. Hein. Bah, dis donc, c'est dingue, ça en parle de mettre un taquet, de me tabasser, de me donner le bastonnade. Et qui que voilà ? Mais c'est le seigneur du 7-10, le virtuose du matin, Amadeus Nico. Un jour, des techniciens m'ont dit qu'ils l'avaient surprise, ils avaient surpris Nico en train d'essayer de piéger mon micro pour qu'il m'explose en pleine gueule. Sonia essayait de l'empêcher, mais il résistait. Il lui disait « Fous-moi la paix, ce mec, je le hais, j'en peux plus. Tant pis si je vais en tôle, je ferai le 7-10 depuis Fleury-Mérogis, tout la Guyane. Mais je serai débarrassé du maniaque du 6h57. » Si seulement Nico savait à quel point je l'apprécie. Si pour un tatouage, je devais choisir entre Nico et un kebab, eh ben, je choisirais Nico, mais un Nico sauce samouraï, bien sûr.
Daniel Morin, l'humoriste indispensable pour des matins qui chantent. Il est dans la matinale de Mathilde Munoz à 6h57 et dans la bande originale du lundi au vendredi. Allez, on va parler un petit peu de la carrière de Guigui Pop et de Sandra Colombo, mais on va parler de vous en son. Ça vous va? En
très bien.
Oui.
Et bah, parfait. Devant vous, j'ai disposé des petits papiers. Vous les tirez l'un après l'autre. Vous lisez l'intitulé et ça déclenche un son et on voit à qui ça parle le plus.
Je t'en prie.
Sandra a déjà le doigt, parce qu'elle aime bien les jeux, Sandra.
J'adore.
T'es très contente. Alors, vas-y.
Quoi de neuf, docteur?
Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'était le générique de sa cartoon.
Bah ouais,
ah oui.
C'était sa cartoon.
Sa cartoon,
c'est,
j'adore.
Que...
Et alors
c'est toi, c'est moi, c'est qui?
C'est vous deux, en fait.
C'est nous deux.
C'est vous deux. Tous les deux, vous nous avez parlé en préparant cette émission des cartoons, des choses que vous pouviez regarder quand vous étiez enfant.
Ah ouais.
Ah oui. Tout à fait.
Et finalement, j'arrive à vous parler de vous à des endroits où vous vous rappelez même pas de ça. Ça, c'est ça qui est fou. Non, moi, ce qui dans ces cartoons-là, il y a un côté un peu grotesque, il y a un peu le côté des personnages qu'on invente. Vous avez l'impression que vous inventez des personnages?
Je t'en prie.
En fait, c'est souvent choper des choses chez des gens et les grossir de manière à les rendre visibles pour tous. Par exemple, moi, j'ai un personnage fétiche que je fais plus dans mon spectacle, mais que j'ai fait longtemps, qui a eu des cousines et tout ça. C'est un personnage que j'ai créé à la télé, qui était le personnage de la coiffeuse, qui s'appelait Jessica Puche.
Et, oh oui.
Ouais, et elle avait une cousine aussi qui s'appelait Jessica Gaulle.
Oui.
Bien sûr.
Excellent.
Et Jessica Poute. Qui,
oui.
qui travaillait dans un crématorium.
Précis.
Qui est très client.
Ah, j'adore.
Jessica Poute.
Et voilà. Et c'est en fait c'est plusieurs personnes qui vont nourrir un personnage. J'ai l'impression qu'on n'invente rien parce que en vrai, je crois que dans la nature humaine, tout existe quand on regarde bien. Tout existe et nous, j'ai comme l'impression qu'on prend une loupe et qu'on dit « Ah tiens, ça c'est bien, on va le mélanger avec ça et puis on va faire ça et hop, ça devient quelque chose d'autre quoi. »
Mais toi, tu parles de devenir quelqu'un d'autre, mais par exemple Guigui, toi j'ai l'impression que tu essayes aussi de mettre un personnage sur qui tu es vraiment.
Ah,
parfois, ou en tout cas dans ta façon de te représenter, notamment sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, bah moi j'ai créé beaucoup de persos au début sur Instagram, ça oui, mais après, c'est ce que je dis souvent aux humoristes, parce que, bon bref, j'ai bossé en tant qu'auteur avec des jeunes dans Comedy Class notamment, etc., sur Amazon et tout, et je disais, c'est beaucoup plus dur, en fait, concentrez-vous sur le personnage plutôt que sur les vannes, en fait. Les vannes, c'est super, mais c'est la façon de les délivrer qui va vous sortir du lot. C'est la façon de parler,
d'accord.
C'est ça qui est plus important. Les vannes, ça peut s'écrire sur un coin de table 10 secondes avant de monter sur scène. Le perso, c'est le truc qu'il faut bosser, quoi.
Un nouveau papier,
à toi.
Ah oui, à moi. Eh bien, tout s'apprend.
Être drôle, ça s'apprend, oui, grâce à des outils qui vont leur permettre d'avoir les différentes techniques pour ensuite développer du coup cette singularité qui leur est propre.
J'espérais secrètement que ce soit ce papier qui soit tiré juste après ce qu'on vient de se dire.
C'est génial, enchaînement de ma boule.
Et bien justement, Sandra, toi, t'es prof.
Ouais.
T'es prof de, d'humour.
De stand-up notamment. Et je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je me bats avec mes élèves qui pensent qu'en fait, tout réside sur la vanne. Or, je ne crois pas du tout. Tout réside sur comment on vend la vanne. Je n'arrête pas de leur dire, on peut écrire une mauvaise vanne et la sauver parce qu'on la délivre bien.
Bah c'est tout ce que je fais, moi.
C'est, c'est la base de ma carrière.
C'est ça, une carrière fondée sur des mauvaises vannes.
Bien sûr.
Mais en fait, oui, je suis d'accord avec toi. La vanne, l'écriture, en tout cas, c'est une sorte de mécanique qu'on arrive plus ou moins à reproduire. Mais la façon dont on est sur scène et tout ça, ce persona qu'on a, et je leur dis tout le temps, c'est quand on est sur scène et qu'on est en stand-up, personne ne peut nous sauver. On est seul, donc il faut proposer quelque chose aux gens. Et il faut en même temps se protéger en tant qu'humain. Et je leur dis, vous ne pouvez pas être tout à fait... On n'est pas tout à fait pareil. C'est notre clown, quoi. Et le trouver, ça prend du temps.
Et ça peut être assez long.
Et c'est long.
C'est long aussi parce que ça fait peur au début.
Mais bien sûr, ça fait peur parce que il faut être dans. Et puis, parce que je crois profondément que quand on va bien soi-même en tant qu'humain, on va bien sur scène. Et que quand on met sur scène des. Moi, je dis tout le temps à mes élèves, la scène, c'est pas une psychothérapie. On n'est pas vos thérapeutes. Nous, on a payé pour vous voir. Ne vous gourrez pas, quoi. Et voilà. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Hein. Je pourrais.
Moi aussi.
Mais malgré tout.
Et je sais qu'on n'a pas le temps.
Tout à l'heure, Vincent Josse, il a besoin de prendre l'antenne. Donc, il faut qu'on enchaîne. Est-ce que je peux avoir un nouveau. Vas-y, tire un papier, Guy.
Ah oui, avec plaisir. 10 ans d'âge.
J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans.
Je sais
pas. C'est bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré.
On vient d'écouter évidemment Alain Souchon, j'ai 10 ans. Elle est pour toi, cette chanson, Sandra.
Ah, très bien.
Parce que ça fait 10 ans tout pile que t'es toute seule sur scène à faire de l'humour.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Donc j'ai
10 ans.
J'ai 10 ans. Et en fait, c'est une chanson, moi, qui, selon moi, raconte une liberté.
Exactement.
Et je trouve, j'ai l'impression, en tout cas, que dans ta carrière, on arrive à une Sandra qui est de plus en plus libre. Est-ce que c'est vrai?
Ouais. Mais c'est parce que je vieillis.
Tu crois?
Bah ouais, ouais. Comme moi, je pense qu'on fait un métier d'artisan. Et je pense qu'on devient bon parce qu'on le fait, à force de le faire, on devient de plus en plus meilleur. Je parle très mal, mais vous voyez l'idée.
Pourtant, tu parles depuis longtemps.
Je parle donc
depuis longtemps, très, très mal. C'était pas top.
C'est pas forcément vrai pour le français, du coup.
C'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'une confiance qui s'instaure, d'une confiance en soi, d'une confiance en ce qu'on fait, de la manière dont on le fait. Et puis, je crois aussi que... Parce que j'ai 50 ans passés. Ah mon Dieu ! Et je crois qu'il y a aussi la confiance qu'on a en soi et le fait que bah plus ça avance et plus on se dit oh là là, on s'embalèque un peu de ce que pensent les autres. Enfin, il y a un côté où on est plus vers soi. En tout cas, on se connaît mieux. Voilà.
Bah c'est bien.
Oh là là, la philosophie.
Non, c'est super. Il faut tirer un nouveau papier maintenant.
Mot magique, mot tactique.
Écoute-moi.
Peut-être.
C'est pour
je
toi.
Prie.
Tu fais Dalida.
Je te jure.
Je crois que c'est pour moi.
Effectivement, Guigui Pop, c'est pour
moi.
Toi. C'est pour toi. Guy, tu as un podcast qui s'appelle Parole.
Ce qui s'appelle Sur Parole.
Sur Parole, pardon.
Sur Parole,
autant pour
fait.
Moi. Autant pour
où
moi.
J'interviewe l'invité, je choisis une chanson pour l'invité et j'interviewe l'invité selon les paroles de la chanson. Comme ça, ça pose des questions. Par exemple, je marche seul, ça commence comme un bateau dérive sans but et sans mobile. On va dire, t'as le mal de mer, t'aimes bien le bateau. Bon, voilà, ce genre de truc. Et comme ça, on peut passer de l'intime au superficiel. Parce que quand tu demandes aux gens, c'est quoi ton top 3 des biscuits? Et après, tu leur dis, t'as peur de la mort? Et ils se disent, attends, mec, tu te fous de ma gueule, c'est cette interview. Et en fait, c'est fait exprès. C'est pour, plus on tire le fil de l'absurde, plus d'un seul coup, j'ai l'impression que le fil de l'intime, il est plus facile à livrer, quoi.
Et t'as peur de la mort?
Moi, j'ai pas forcément peur de la mort. Qui a peur de la mort par applaudissement?
Bon, il y en a une, elle, ce qui l'inspire, c'est les arbres et la politique. Voilà, le mélange est un petit peu étrange, mais avec elle, ça marche. On écoute Julie Conti, c'était mercredi dans la bande originale.
c'est la journée internationale de la biodiversité. Bonne fête la nature ! Ouais, c'est comme pour les femmes, hein, c'est menacé, alors on lui consacre une journée par an. Ouais. Et pour fêter ça, des députés ont offert un joli cadeau au lobby en approuvant le retour sous condition d'un insecticide nocif pour les pollinisateurs interdit en France depuis 2018. Youpi ! Santé à la tienne, maille à l'abeille ! Alors évidemment, on se dit que si ce genre de produit est réintroduit, c'est qu'il ne doit pas être nocif, car le gouvernement ne nous cacherait pas un truc pareil.
Non.
Oh, en même temps, ça fait depuis 2022 qu'ils savaient que quand on commande un Perrier tranche, le petit goût en plus, c'est pas la rondelle de citron, mais la rondelle d'un touriste hollandais qui s'est soulagé dans la source. Oh. Alors il faut quand même se méfier un peu. Hein. Je pense qu'on peut dire que Macron, l'environnement, il s'en fout comme d'une phrase de 5 mots sans adverbe. Hein. Trouver des centaines de milliards pour l'IA, ok, mais pour la biodiversité, c'est... Allez opportunément voir Brigitte. Peut-être qu'il lui reste fortuitement des pièces jaunes après avoir admirablement sauvé les hôpitaux. En fait, bien imiter Macron, c'est dire de la merde, mais avec plein d'adverbes. En 2017, Manu avait promis de faire de la santé environnementale une priorité du quinquennat. Il avait même été nommé en 2018 champion de la Terre par l'ONU. Macron, champion de la Terre, et mon cul, ouais. Et vu les actions menées depuis 2018, je pense qu'on peut faire comme avec Lance Armstrong et ses Tours de France et lui demander de rendre la coupe. Hein. Sur sa dernière intervention télé de 190 minutes, seulement 5 étaient consacrées à l'environnement. 3h10, la durée de Titanic, et il nous a seulement casé 5 minutes sur l'environnement. Et c'était pas les 5 minutes les plus mémorables du film, hein. On n'est pas sur la scène de la bagnole, là, vas-y, mets-la-moi, Jack. Non, pas du tout. Non. Ce que Manu nous a balancé, c'était plutôt du niveau de la scène où le capitaine dit « Ah oui, tranquille, ça va passer, on va éviter l'iceberg !» Spoiler alerte, non, on va pas l'éviter, le putain d'iceberg. Et peut-être qu'il va réagir quand même, Manu, et nous annoncer une mesure phare, genre un 49-3 pour interdire le CO2, ou mieux, un numéro vert pour la biodiversité, hein, pour que les animaux puissent téléphoner pour se plaindre qu'on défense leur habitat naturel. Oh, tiens, on a justement un appel. SOS Biodiversité, j'écoute. Ah, vous êtes une baleine menacée par la surpêche. Bon allez, courage, hein. On vous envoie un pin's Renaissance et un thermos des JO de Paris. Comme ça, vous pourrez nager, il n'y aura plus de plastique. Oh là là, la réintroduction de ce genre de produits phytosanitaires, ça serait pour, je cite, « lever les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs ». Ils aiment bien nous sortir cette image d'épinal du petit paysan à casquette qui nourrit la France. Mais bon, il ne faut pas nous prendre pour des glands. Hein. Ces mesures, elles sont mises en place sous la pression des lobbies agricoles et de la chimie. Le mouvement, ça part pas de Jean-Pierre cultivateur de colza d'âme le tarde. Mais plutôt de John Peter, cultivateur de dividendes pour Monsanto. En plus, en utilisant le pesticide, Jean-Pierre, lui, s'expose à des impacts respiratoires, neurologiques et rénaux, pendant que lui, John Peter, il s'expose au soleil sur le deuxième pont de son yacht. C'est magnifique. La population d'insectes volants aurait chuté de plus de 60% en 3 ans, selon une étude participative britannique appelée Bugs Matter. Bon, Bugs Matter, parce qu'apparemment, les insectes, ils sont aussi victimes des bavures policières par les flics américains, je ne sais pas. Et cette étude très sérieuse s'est basée sur le nombre d'impacts d'insectes sur une voiture après un trajet routier. On appelle ça le test du pare-brise.
Ouais.
Voilà, on a peut-être jugé Pierre Palmade un peu vite. Hein. Si ça se trouve, il essayait juste de faire avancer la recherche sur la biodiversité. C'est le Jean-Marc Jancovici du chemsex, le garçon. Et la désinformation est telle sur le climat et la biodiversité qu'on serait capable de nous dire un truc du genre « Non mais s'il y a moins d'insectes sur les pare-brises, on va moins à l'éléphant bleu pour laver la scénique, donc on gaspille moins d'eau. CQFD, les pesticides, ça protège l'environnement. Votez Roundup !» Alors oui, la disparition des insectes est critique, mais de façon générale, on s'en branle un peu. Hein, faut le dire, moins de moustiques, cool, on se fera moins piquer pendant les barbecues. Enfin, clairement, hein, c'est pas les mieux défendus au Parlement. En termes de lobby, ils sont juste entre les infirmières et les roms. Et après, je vous rassure, il n'y a pas que les insectes qui sont menacés. Plantes, oiseaux, reptiles, mammifères, tous sont concernés. Le seul qui se porte bien, c'est le blaireau. Oui, il y a même un de ses représentants qui vient de se faire élire à la tête des Républicains. On estime qu'un million d'espèces pourraient disparaître en 30 ans. On est dans la 6e extinction de masse. Pour rappel, les précédentes extinctions ont été causées par l'activité volcanique, des astéroïdes ou d'autres phénomènes climatiques naturels. Mais celle-là, elle est spéciale parce qu'on l'a fait nous tout seuls, comme des grands. Hein, ouais. Et c'est là que tu vois que l'être humain est l'espèce la plus évoluée parce qu'on est la seule à avoir réussi à déclencher l'extinction dont on sera victime. Ah voilà, voilà, là on est vraiment les champions de la Terre. Allez, bonne fête la nature.
C'était Julie Conti qui nous dit tout chaque semaine dans la bande originale. Et quand je dis qu'elle dit tout, eh ben elle le dit malgré ce qu'en pense Jacques Dutronc. Pour lui, on nous cache tout, on nous dit rien. Et le secret, eh ben, ce sera justement le thème de la chronique vintage. Donc direction 1966, vous êtes toujours sur France Inter, mais oh, Surprise. Sandra Colombo porte une robe Vichy et Guigui a une coupe au bol. Waouh, c'est très impressionnant. Swingon sur Jacques Dutronc.
On ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse. Quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer. Est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque. A-t-il été déclaré au fisc?
Rien sur France Inter, une chanson sortie en 1966, exactement l'année de la chronique vintage que l'on va écouter maintenant, en se demandant...
L'humour, c'était mieux avant.
L'expérience proprement dite de diffusion stéréophonique va débuter dans quelques instants.
Mesdames et messieurs les jurés,
pensez-vous que je pourrais aussi devenir humoriste? C'est un métier généralement réservé aux artistes moches.
Vous connaissez le SDUC?
Non.
Non. C'est le service de documentation unilatérale de contre-espionnage dirigé par le très sérieux ou presque colonel Hubert de Guerlas dans la série culte Bon baiser de partout. C'est une série imaginée par Pierre Dac et Louis Rognoni. Cette fiction, c'est une parodie de série d'espionnage. Elle a été diffusée entre 1966 et 1974. Et dans le premier épisode, une nouvelle recrue bretonne apprenait le béaba de l'espionnage.
Nous allons commencer par les 12 commandements du parfait petit agent secret, édictés en 1914 par la fameuse Elisabeth Stragmüller, plus connue sous le nom de Mademoiselle Doc. Premier commandement. Avoir toujours présent à l'esprit que si la prudence est la mère de la sûreté nationale, la direction de l'Interpol est la belle-sœur de celle des renseignements généraux.
C'est enregistré, passez au deuxième.
Pour mener à bien une mission secrète, voir toujours les choses venir de loin pour être en mesure de les regarder de plus près.
Bon, c'est gravé, là.
Où ça?
Ici, ici.
Ah. En situation difficile, avoir toujours à l'esprit que tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de désespérer.
Compris.
Quatrièmement, en cas de coup dur, tirez d'abord, visez ensuite.
D'accord, on n'a pas le temps à perdre.
Cinquième commandement, pour s'asseoir, ne comptez que sur ses fesses.
Voulez-vous que je vous dise, MX-33, c'est du Confucius. Tout simplement, Confucius, c'est gravé.
Attention au sixième commandement.
Fais attention, je me tiens.
Devant un adversaire supérieur en nombre, être plus fort que lui en calcul mental.
Mental, j'oublierai pas.
De toute façon, ceux qui l'ont oublié ne sont jamais revenus pour nous dire ce qui s'était passé. Et nous passons au septième commandement. Être capable de se camoufler en garçonnet, en basse et en saule pleureur, en pain parasol ou en chandelier à sept branches.
En pain maritime, ça ne marche pas?
C'est uniquement réservé au service de renseignement de l'aéronaval.
Ah bon.
Nous n'avons pas à nous en occuper.
Très bien.
Au téléphone, composez toujours un faux numéro pour mieux dissimuler celui qu'on désire obtenir.
Comme de toute façon, on ne l'obtient pas non plus, autant se servir de pigeon voyageur.
C'est une opinion qui n'est point exprimée dans les 12 commandements du parfait agent secret. N'oubliez pas qu'un agent peut être appelé à travailler dans un pays où le téléphone fonctionne normalement. Je poursuis. 9e commandement. Savoir imiter à s'y méprendre le cri de la langouste en chaleur et l'appel nostalgique du ver solitaire au fond des bois.
Ah ça, Théodule, je compte sur vous pour me donner des tuyaux, je suis pas très musicien.
10e commandement, ne jamais flirter avec une femme sans avoir préalablement vérifié si ce n'est pas un homme.
Ah, comptez sur moi.
très important, le 11e commandement. Ah. Quand on se sent épié par un agent ennemi, le repérer, l'épier à son tour afin de le dérouter de manière à ce qu'il ne sache plus exactement si celui qui l'épie ne l'épie pas aussi et si tout en épiant il n'est pas lui-même épié par celui qui l'est chargé d'épier en qualité d'homme de main, c'est-à-dire par l'épier.
Marchez toujours, Théodule, c'est enregistré.
Pour des raisons de sécurité que vous n'êtes pas à même de comprendre actuellement, je vous prierai de m'appeler AMX-33 et non Théodule. Seul, le colonel de guerre Lars, et encore, quand il est dans ses bons jours, se permet de m'appeler par mon prénom.
Oh, faut pas vous vexer. Moi, vous pouvez m'appeler Nicolas, maintenant qu'on est de la même boutique.
Pas encore tout à fait, mon cher le roi d'Ec.
Ah, sur la noce, ils avaient marqué comme ça, possibilité de devenir cadre.
Mais oui, et je le déplore.
Alors, vous pensez bien que s'il y a une possibilité de devenir cadre, je ne vais pas me gratter.
En attendant ce jour, permettez-moi de vous citer le 12e et dernier commandement du parfait petit agent secret. Si l'on est agent double, ne jamais se donner rendez-vous au même endroit de crainte de se retrouver tout seul ensemble.
C'est obligatoire de devenir agent double. Quand on voit ce qu'on exige d'un simple agent simple...
Les circonstances, parfois, poussent à ce jeu dangereux. Ah. Sait-on jamais.
C'était Bon Baiser de Partout et Bonne Nouvelle. Vous pouvez l'écouter en entier en version restaurée sur Ina Podcast, en collaboration avec France Inter, bien sûr. Vous lisez la presse pour écrire vos chroniques ?
Moi, je ne lis pas la presse, mais j'écoute énormément la radio, les flash infos. Je lis,
Sandra Colombo, tu es connectée.
Ouais, connecté. Je suis méga trop connectée même. Ouais, ouais.
Et Gigi Pop ?
Absolument pas.
D'accord. Bah, je me suis dit qu'on allait quand même faire une petite revue de presse, parce que c'est important.
Allez,
pour la
plaisir,
façon.
Voilà, merci.
Par exemple, j'ai regardé l'Instagram de Quotidien et ils ont titré « Le frère gênant de Léon ». Alors que le nouveau pape est plutôt très aimé, son frère semble être un gros boulet pour lui, car il est, je cite, « en roue libre totale sur les réseaux sociaux ». Avec des coups de gueule « Make America Great Again » et une flopée d'insultes à des politiques. C'est ce qu'ils ont écrit dans les posts sur Instagram, dans Quotidien. Sandra, qu'est-ce que tu fais qui fout vraiment la honte à ta famille ?
Quand je vais au restaurant, il m'arrive parfois de dire que c'est pas bon. Et ça met extrêmement mal à l'aise, notamment ma belle-maman, la maman de mon amoureux. Et ça la gêne énormément. Elle est là, non, tu vas pas leur dire. Je suis là, bah si. En fait, moi, j'en ai ras-le-bol d'aller manger. Attention, coup de gueule. D'aller manger au restaurant et que ça soit moins bon que ce que moi, je fais à manger.
Bon, oui, mais
je trouve
bon,
que
t'as
je fais
un niveau...
bien à manger. Oui, oui mais néanmoins.
Mais tu dis ça
et je dis, excusez-moi. En plus, j'ai l'impression de le dire très gentiment. J'ai excusez-moi, je trouve que c'est...
avarié.
On dirait que vous l'avez déjà vomi.
Voilà. Après, je dis non, s'il vous plaît, désolé et tout. Mais
bon, la phrase est catastrophique.
C'est vrai que ça fout un peu la honte.
Et et ça la met très, 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 très mal à l'aise.
Guigui, j'ai lu dans le Figaro que pour les présidentielles 2027, pour Wauquiez, la question du candidat de la droite n'est pas tranchée. C'est quoi, toi, Wauquiez qui a perdu la présidence face à Retailleau, ouais. Bien sûr. C'est quoi la dernière défaite que tu n'as pas acceptée, Guigui?
J'y ai pensé, figure-toi. C'est pas une défaite que j'ai pas acceptée, mais je me suis souvenu de la première fois où, tu sais, quand tu joues avec tes neveux qui sont petits, tu joues un peu au foot. Bon, t'arrives à les dribbler facilement. Et la première fois où mon neveu, il m'a dribblé, j'ai fait... Mais il avait 8 ans, quoi. Ouais. Et par contre, j'étais déjà adulte. J'ai fait, ouais, alors par contre, c'est... Enfin, genre,
là, c'est chaud.
Genre, t'es plus fort que moi au football. Et je me suis posé la même question avec mon fiston, puisque là, il a 10 mois. Je me suis dit...
Et t'as dribblé aussi ?
Non, quand même pas.
Je pense que t'es vraiment nul en foot, en fait, c'est ça.
Mais à quel moment je le laisse gagner à des jeux ? Moi, je pense que je vais pas le laisser gagner. Je suis très, tu vois, console et tout. Mais genre, si je joue à Mario Kart, il n'y a aucune raison que tu gagnes, quoi.
Mais en fait, ce qu'on apprend là, dans cette émission, c'est que tous les deux, vous ne laissez rien passer.
Rien !
Non, mais on laisse pas gagner les enfants, si.
C'est ça, ouais, non. Mais ni les enfants, ni les restaurateurs.
Rien.
Cette semaine dans Gala, Michel Polnareff a déclaré « Je pense avoir beaucoup de charme ». Allez, nous aussi, on se complimente. Sandra, Guigui, c'est quoi votre atout charme numéro 1 ? Fut un temps, j'aurais répondu mes seins, mais vu la gravité ambiante, pas. Je dirais mon cerveau. Allez.
Pas mal. Écoute, je n'avais pas quoi répondre. J'ai demandé à ma meuf. Ouais. J'ai dit, tu penses que c'est quoi mon attouchable numéro 1? Et elle a répondu, je dirais, t'as réparti. J'étais là. Donc physiquement, c'est net, quoi. Ok, cool. Ouais, merci.
Et c'est super parce que t'as, comme tu n'avais pas vraiment de réponse, ben voilà. T'as dû lui demander, mais c'est vraiment t'as réparti. Pour moi, c'est un grand oui. Voilà, je tiens à te dire que cette réponse me convient parfaitement. La touche charme d'Harold Barbet, c'est sa barbe, à lui, parfaitement taillée, ainsi que le kilt qu'il arbore fièrement. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté dans Zoom Zoom Zen cette semaine et que face à un des créateurs de Metal Hurlant, c'est un journal dédié à la science-fiction, il nous a conté une histoire futuriste extraordinaire.
Moi aussi, Jean-Pierre. Comme vous, un jour, je devais avoir 16 ans, un inconnu un peu habillé comme un pêcheur vient me voir et me dit « Je voudrais faire un film sur le Titanic et je pense à vous pour le rôle de Jack. » Ce à quoi je lui réponds « Bah dégage de là, tu sens la sardine !» Grosse erreur. Ma première apparition au cinéma ne se fera qu'en 2007 dans Disco de Fabien Antonenko. Ce qui est à peu près aussi humiliant que de dire non au Real Madrid pour finalement signer 3 ans plus tard au Havre. On a tous droit à une deuxième chance, Jean-Pierre. Je vais donc vous proposer un récit de science-fiction futuriste, pas comme les autres. Ne faites pas la même erreur qu'avec Mad Max. Ne passez pas à côté. Ça s'appelle Mad Harold et la carte d'identité perdue. Nous sommes en juin 2025. Techniquement, c'est le futur. Un mois plus tôt, alors que notre collègue Pierre Courade m'a subtilisé ma carte d'identité pour pouvoir continuer de surfer sur des sites pornographiques, il m'informe que celle-ci est périmée. Ainsi débute notre aventure. Je prends la route, accompagné de mon fidèle acolyte, Quentin lui, direction la planète, préfecture. Quentin est fermement accroché à moi pendant que je pilote mon vaisseau, ma fidèle trottinette Ninebot Kick Scooter F2. Après avoir un peu bizarrement reniflé mon eau de Cologne, Quentin me glisse à l'oreille.
Harold, malgré toutes nos aventures, j'ai peur.
Je comprends que tu aies peur, Quentin. Les employés de la préfecture peuvent nous foudroyer d'ennui en un regard et sentent bien souvent la réglisse. Tu dois rester fort, comme pendant ce week-end qu'on a passé chez les hippies. Tu n'as pas envie de finir avec un deuxième Prince Albert. Alors reste bien près de moi. Avant de pénétrer dans le temple des papiers maudits, nous croisons le chemin d'un pauvre malheureux, étendu sur le sol à l'article de la mort, totalement déshydraté.
Harold, un sans-abri mourant.
Non, Quentin, regarde le mieux. Observe la montre Casio qu'il porte au poignet. Cet homme venait juste déposer les statuts de son association de fans de Donjons et Dragons. Soyons sur nos gardes. Nous pénétrâmes le hall du temple des papiers maudits. Autour de nous, que des âmes brisées. Ça sent la sueur et le scrotum irrité. Nous nous dirigeons vers notre première épreuve, l'hôtel des damnés. Plus communément appelé l'accueil. Un individu dégarni avec un collier de barbe nous y attend de pied ferme. Son soupir, avant même que l'on ait dit quelque chose, m'incite à la plus grande fermeté à son égard. « Bonjour, je fais renouveler ma carte d'identité. » Un peu trop en confiance, il me demande si j'ai bien rempli le formulaire en ligne et si j'ai une photo conforme. Je lui donne tout. Vexé, les yeux remplis de stupre, il fixe de manière perverse mon Quentin. Là, je lui tends un artefact qu'il ne peut refuser. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Dans un cri venu tout droit des enfers, il nous laisse passer dans la salle du temps perdu. Un endroit horrible où le temps s'arrête. Un moment encore pire à vivre qu'une soirée photo de vacances chez un couple d'amis. Méfie-toi, Quentin. J'ai déjà connu ce genre de situation lors d'un dîner avec des collègues de ma femme. L'ennui peut dévorer ton âme. À peine assis dans la salle du temps perdu, je vois Quentin sortir son téléphone et commencer à scroller. Attention, Quentin, tu bascules. T'es déjà en train de te faire chier.
Je regarde juste les chaussures de moto sur Vinted.
Ils l'ont eu. Je vois Quentin se lever et saisir un prospectus qui explique les différentes étapes pour déposer un permis de construire. Ses yeux vacillent. Je le rattrape avant qu'il ne tombe à la renverse. Quentin, tiens le coup, gamin.
Harold, et si on faisait construire une piscine chez nous, en Normandie?
Tu ne sais plus ce que tu dis, Quentin. Tu sais bien qu'il pleut tout le temps en Normandie. Malgré une dernière flatulence due au cassoulet de la cantine de la maison de la radio, Quentin perd connaissance. Je vais devoir mener la bataille finale seul et obtenir mon récépissé de carte d'identité sans l'aide de mon fidèle compagnon. On finit par appeler notre numéro, le 666. Une femme, l'air patibulaire, nous accueille. Ses cheveux gras me font penser qu'il faut absolument que je passe acheter de l'huile pour la friteuse de la maison. Elle tente de me repousser en me postillonnant dessus massivement. Perdu pour perdu, j'utilise le corps inerte de Quentin pour me protéger. J'arrive jusqu'au récépissé que je lui arrache des mains et ressors victorieux du temple. Voilà Jean-Pierre, là je pense que vous pouvez rappeler George Miller et lui dire que vous avez le nouveau Mad Max entre les mains.
Oh, quel beau futur il nous promet, Harold Barbet. Vous le retrouvez dans Zoom Zoom Zen et sur l'appli Radio France. Et après cette altercation musclée à la mairie, passons à une altercation que les Wet Leg ont eue avec un homme agressif. Elles en ont fait une chanson et même, si je cite les Inrocks, car oui, je lis les Inrocks, c'est un hymne percutant. On écoute Wet Leg, Catch These Fists.
L'humour d'Inter, l'hebdo, Marine Baousson.
Tom Baldetti a dédié cette semaine sa chronique à son papa. Voilà, je trouve ça vraiment trop trop mignon. Donc comme disait presque Michel Blanc, peut-être c'est la fête des mères demain, mais vous, fêtez qui vous voulez.
Pour lundi, pour moi, cet après-midi, je participe à l'émission du Jamel Comedy Club.
Wow.
Ouais, il y a des lundis plus stressants que d'autres. Bande originale ce matin, Jamel cet après-midi. Il y a une des deux émissions qui a bercé mon enfance, mais je laisse planer le doute. Je profite de l'occasion pour avouer un truc un peu honteux. Moi, le lendemain de ma toute première scène de stand-up, bah, j'ai filmé le passage et je l'ai envoyé au Jamel Comedy Club en pensant que ça ferait décoller ma carrière. Autant vous dire que c'est pas vraiment le cas, quoi. Il y avait 8 personnes dans une cave, composées de quelques plans cul et des membres de ma famille. Ça mettait des ambiances techniques. Oh, tu le connais d'où, Tom? Je l'ai élevé. Et toi? Je l'ai sucé, madame.
Oh, non.
Un premier passage de stand-up dans ce genre de conditions, c'est on ne peut plus gênant. Et regarder la vidéo, c'est de la torture. Tu peux faire cracher le morceau à n'importe qui. Je peux vendre cette vidéo au KGB, je pense. Je vais tout vous dire, promis, mais enlevez-moi ces blagues médiocres, je vous en supplie. J'envoie ça au Jamel avec un mail que j'ai retrouvé. Madame, monsieur, vous trouverez en pièce jointe un lien menant vers mon premier passage de stand-up. Je ne sais pas quelles sont les conditions pour envisager un potentiel passage sur votre prestigieuse scène. En l'attente de votre retour, je vous prie de bien vouloir agréer mes plus sincères salutations. Wow. Humoristiquement, Tom Baldetti.
Wow, là, là, là.
J'ai envie de me niquer. On dirait que je postule sur LinkedIn, c'est un enfer. J'ai envoyé ce mail à la billetterie. Ça veut dire qu'il y a une personne qui se charge de lister les gens qui viendront au spectacle et dans ses mails, elle voit Tom Baldetti, 20 ans. Vous avez remarqué dans le métro? Elle a fait un burn-out dans la foulée, je crois. Le niveau de confiance et d'inconscience qu'il faut pour faire ça. C'est à cause de mon père, il m'a donné trop confiance en moi. Quand il parlait de moi, il disait mon fils, on l'appelle le Mbappé du stand-up. Absolument personne ne m'a appelé comme ça. Tout ce que je faisais, c'était moi le meilleur. Pas une once d'objectivité, mais une dose d'amour inconditionnel. Quand je faisais du rugby, j'étais remplaçant. Mon père, il disait, le coach, il comprend pas ton style de jeu. J'ai fait du judo à 6 ans. Je jouais contre des enfants de 10 ans parce que j'étais gros. Mon père, il disait, t'as les os lourds, fiston. Il y a une scène assez célèbre de Thierry Henry qui dit que quand il était jeune, il y a un match où il a mis 9 buts et son père l'a pas félicité une seule fois et il a mentionné toutes les choses qu'il avait ratées. Thierry Henry dit que c'est grâce à cette éducation qu'il a été aussi loin dans sa carrière. Moi, mon père, si je ratais 9 choses dans un match, il mentionnait la seule chose de bien, quoi. On a perdu à cause de toi, mais ton maillot, il t'allait super bien. Il croit en tout ce que je fais. Si demain j'arrête l'humour et que je me mets à la pétanque, il sera le premier au bord d'un boulodrome, pastis à la main. Qu'est-ce que tu pointes bien, fiston? Il m'écrit après chaque chronique. C'était ta meilleure aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'est pas objectif. Mon père, il fait partie des raisons pour lesquelles je veux pas d'enfant, quoi. J'ai peur de pas être à la hauteur. Je peux pas être aussi bon que lui. C'est un super père alors qu'il a pas eu de père. Il fait bien l'activité alors qu'il a pas vu le tutoriel. C'est fort, quoi. Un papa autodidacte. Là, il m'entend. Et papa, en vrai, le coach, il avait très bien compris mon style de jeu. Hein. J'avais pas les os lourds, hein. J'étais gras comme un sketch de Bigard. Donc ce matin, je suis chez Nagui, cet après-midi chez Jamel. Je sais pas si ça sera bien, de toute façon, je m'en fous parce que je suis le meilleur. C'est mon papa qui l'a dit.
Oh là là, c'était beaucoup trop mignon. Mais de toute façon, Tom Baldetti, il est beaucoup trop mignon. Et je le dis ça sous la menace, évidemment, de son papa. Allez, Tom Baldetti, il est dans la bande originale chaque semaine. Mais d'ailleurs, en parlant de semaine, on serait pas un petit bilan de la mienne?
Complètement. Ah oui.
Bon, bah alors moi, un des trucs qui me marque vraiment beaucoup en ce moment, c'est la transphobie ambiante partout dans le monde. Donc, je rappelle rapidement le principe de la transphobie, c'est dire « Oui, les personnes trans, gna gna gna, moi, j'aime pas trop, même si ça me concerne pas. » Bon, attention, il y a aussi des réflexions beaucoup plus nuancées et réfléchies du type « Ouais, les personnes trans, elles veulent qu'on les laisse tranquilles et qu'elles s'occupent pas de leurs affaires. Non, mais pour qui elles se prennent ?» Mais je sais pas, pour des gens que tu harcèles, peut-être, JK. Alors oui, je dis JK parce que comme tout mouvement à la mode, la transphobie a son égérie, c'est JK Rowling, la femme qui a écrit Harry Potter. Donc oui, Harry Potter, je résume, hein, le livre qui défend l'idée que c'est pas parce qu'on se sent différent qu'on est nul, et peut-être que quand on est mal aimé et mal jugé quelque part, eh bien, on peut trouver sa place dans le monde et s'épanouir. Et bah, cette dame-là, qui a écrit ce livre-là, et qui a probablement donc une double personnalité, c'est l'égérie des transphobes. Et moi, j'en peux plus de voir sa tête sur un post sur deux de mon fil Instagram. Mais après, j'avoue, peut-être qu'il faut que j'arrête de suivre que des comptes engagés LGBT, parce que ça me donne l'impression qu'on est la norme, et qu'après, je peux tenir la main de ma concu dans la rue, genre que c'est pas dangereux. Je rigole, évidemment que je le sais, on est en France, c'est tout le temps dangereux. Donc tout ça pour vous dire que J.K. Rowling, elle est égérie transphobie. Vous trouvez pas que quand on le dit comme ça, on dirait que c'est le nom d'un parfum ?
Ouais.
Une touche d'intolérance. Un bouquet d'idérance. Un soupçon de violence. Transphobie. La nouvelle frague rance. Garantie sans vivre ensemble. Offre valable en magasin dans la limite des stocks de mauvaise foi disponibles. Alors, J.K. Rowling, à chaque fois que je vois sa tête, je me transforme en parent d'enfant turbulent. Je suis là, mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Non, mais qui elle a insulté? Je suis désolée, elle n'a pas conscience qu'elle peut faire du mal aux gens. J.K., tu vas au coin! Non, mais je comprends pas. On avait fait la météo des émotions pourtant. T'avais dit grand beau, pas de nuages. Et là maintenant, tu mords la petite fille. Qu'est-ce qu'on va faire de... Je croyais que t'aimais les arcs-en-ciel! Bon, alors, récemment, j'ai eu vraiment envie de l'envoyer faire un temps calme pour réfléchir un petit peu à ses actions dans sa chambre. Parce qu'avec ses sous d'Harry Potter, elle a financé une asso qui a poussé une loi qui vient de passer au Royaume-Uni. Voilà, désormais, là-bas, une femme est définie uniquement par son sexe biologique et non par son genre. Et je vous cache pas que si j'avais été un peu moins Montessori, j'aurais pu lui tirer un petit peu l'oreille, voir si on avait été dans Harry Potter, lui balancer un sort qui apparaît dans Le Prince de Sang-Mêlé, le Bloc-Langue. Voilà, comme son nom l'indique, ça colle la langue de la personne visée à son palais. Nous, ça nous aurait fait des vacances, malheureusement, ça c'est de la fiction. Alors que la transphobie, la sienne en tout cas, pas du tout. Alors pour fêter ça, elle a publié une photo d'elle, cigare à la main, avec écrit « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». Bon, voilà, il y avait quand même un gros accroc, hein, et qui s'appelle Orio, un bon gros pas en arrière. Alors juste au cas où, comme ça, selon SOS Homophobie puis Santé Publique France, près d'une personne sur 10 est victime de transphobie dans le milieu familial ou d'entourage proche. Les femmes trans sont les plus touchées à 27%, et plus d'une personne trans sur 10 a été agressée physiquement au cours de l'année écoulée parce qu'elle était transgenre. Et 100% de ce que je viens de vous dire devrait nous alerter. Alors arrêtons d'avoir peur des personnes trans et ont plutôt peur pour les personnes trans. Et ne les obligeons pas à vivre au fond d'un placard, harcelées par le monde autour d'elles qui refuse de voir qu'elles sont magiques. Bah, comme Harry Potter en fait. Allez, bisous JK. C'était votre émission préférée, l'humour d'Inter, l'hebdo, une émission qui vous donne envie d'aller vous abonner au fil de podcast L'humour d'Inter sur l'application Radio France. Merci Sandra Colombo, merci Guigui Pop.
Merci.
Merci à toi.
Guigui, tu continues à jouer ton spectacle chaque jeudi à 21h30 au Petit Palais des Glaces à Paris jusqu'en juillet et tu reprends à la rentrée.
Oui, tout à fait.
À partir de
Bonne question.
D'accord, bah merci pour. Merci.
En septembre, quoi.
En septembre, voilà, mais évidemment. Toi, Sandra, tu vas nous aider à résoudre un cas épineux, en tout cas une question qui nous tracasse. Que faire des cons? C'est le titre de ton spectacle. Tu seras tout le mois de juin, les mardis soirs, au Point Virgule à Paris et puis au Festival d'Avignon.
Oui, à 18h10 au Théâtre Notre-Dame.
Ah bien, nous serons là, évidemment. C'était l'humour d'Inter, l'hebdo, une émission préparée par Louise Tempéro, documentée par l'antenne INA. Lucie Lemarchand était à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale et c'était Rémi Sistiaga à la technique.